RFI, 2h à Paris et Berlin, 1h temps universel.
Paul Lancin-Spinelli.
C'est une première depuis la Seconde Guerre mondiale en Allemagne et elle pourrait bouleverser la campagne pour les prochaines législatives. Le scrutin se tient dans un mois et ce mercredi, la droite traditionnelle et l'extrême droite se sont entendus sur un texte pour demander une lutte plus ferme contre l'immigration. Le chancelier Olaf Scholz a dénoncé une erreur impardonnable de la droite traditionnelle. En RDC, Félix Tshisekedi, le président congolais, annonce qu'une riposte est en cours dans l'est du pays où le M23 s'est emparé de Goma avec le soutien du Rwanda, d'une grande partie de la capitale du Nord Kivu, plus précisément une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire selon le président congolais. Et puis des élections générales à venir autour du 15 novembre prochain en Haïti. Cela fait depuis 2016 qu'un scrutin n'a pas pu se tenir dans le pays. C'est un accord anti-immigration qui fait grincer des dents en Allemagne. Les chrétiens démocrates ont fait adopter une motion au Bundestag, le Parlement allemand, grâce aux voix de l'extrême droite ce mercredi. C'est une rupture de ce qui était jusqu'alors considéré comme un cordon sanitaire en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cet accord qui intervient une semaine après une nouvelle attaque meurtrière commise par un migrant, et ce dans un contexte de campagne électorale. Les législatives se déroulent dans un mois. Le chancelier Olaf Scholz risque de perdre sa place. Il a dénoncé une erreur impardonnable de son concurrent, également favori du scrutin, le président de la CDU, Friedrich Merz. Pascal Thibault.
C'est un moment historique, une nouvelle ère commence et l'AfD en est le porte-drapeau. La réaction à chaud de Bernd Baumann à la tribune du Bundestag le résume. Pour l'extrême droite, cette rupture du cordon sanitaire est une victoire qui a fait jubiler les députés de l'Alternative pour l'Allemagne dans l'hémicycle. Une des deux motions anti-immigration déposées par les chrétiens démocrates a obtenu une majorité de justesse avec 348 voix contre 345. Le candidat à la chancellerie de la CDU, Friedrich Merz, a déclaré regretter ce vote avec les voix obtenues de l'AfD, affirmant que la gauche aurait dû prendre ses responsabilités. Mais c'est bien le président de la CDU qui a rompu avec l'ostracisme frappant l'extrême droite en estimant que l'essentiel était l'adoption de la motion prévoyant des contrôles stricts aux frontières et l'arrêt de toute immigration. Le texte condamnait certes le populisme de l'AfD, mais pour la CDU, l'attaque au couteau d'un migrant afghan la semaine dernière justifiait d'aller de l'avant, quelles que soient les forces qui soutiendraient le texte. Friedrich Merz rejette toujours avec véhémence toute alliance avec l'AfD, mais un tabou a été brisé aujourd'hui, qui marquera sans doute un tournant dans la campagne électorale en cours. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Donald Trump, lui aussi, a dégainé une nouvelle arme dans sa politique anti-migrants ce mercredi aux États-Unis. Un décret va être signé par le président américain pour bâtir un centre d'accueil pour 30 000 migrants à Guantanamo. Cette base accueille déjà l'une des prisons américaines les plus sécurisées où sont incarcérés des condamnés pour terrorisme. Le centre avait en effet été construit après les attentats du 11 septembre 2001. La nouvelle administration gouvernementale américaine qui soutient également la décision israélienne de fermer les locaux de l'UNRWA à Jérusalem. Les employés de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a prié de quitter la ville dès ce jeudi. Cela concerne aussi Jérusalem-Est, partie palestinienne annexée par Israël. Et ce mercredi, le gouvernement israélien a réitéré que selon lui, l'UNRWA, c'est le Hamas. Un chiffre est avancé, plus de 1200 membres du Hamas qui seraient employés par l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, toujours selon le gouvernement de l'État hébreu. Sa prise de parole était extrêmement attendue après l'entrée du M23 soutenu par le Rwanda dans Goma. Félix Tshisekedi s'est exprimé mercredi soir à la télévision nationale. Le président congolais qui parle d'une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Il précise toutefois qu'une riposte vigoureuse est en cours. Si Goma représente un objectif très symbolique en tant que capitale provinciale du Nord Kivu, le groupe rebelle contrôlait en fait déjà depuis plusieurs mois une bonne partie de l'économie minière de la province. L'une des prises principales, c'est Rubaya, la plus grande mine de coltan dans la région des Grands Lacs. La ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Wagner, avait donc demandé au Conseil de sécurité de l'ONU d'imposer des sanctions, dont un embargo total sur les exportations de minerais étiquetés comme rwandais, en particulier le coltan et l'or, Claire Fage.
L'emprise du M23 n'a cessé de s'étendre sur les ressources minières de l'Est congolais. Le 30 avril dernier, le groupe armé soutenu par le Rwanda prend le contrôle de la mine de Rubaya, 15% de la production mondiale de coltan. Le dernier rapport des experts de l'ONU, publié le mois dernier, documente la façon dont le groupe armé instaure alors une véritable administration parallèle qui délivre les permis aux creuseurs et aux opérateurs en échange de redevances, s'assure que le coltan n'est vendu qu'aux acheteurs autorisés par le M23 et contrôle toute la route allant de la zone minière congolaise à la frontière du Rwanda, où ce coltan est illégalement mélangé à la production rwandaise. Il s'agit de la contamination la plus importante jamais enregistrée des chaînes d'approvisionnement de minerai 3T, étain, tantale et tungstène dans la région des Grands Lacs ces 10 dernières années, concluent les experts. Ils évaluent à 120 tonnes par mois le volume de coltan congolais désormais sous contrôle du M23. Une manne de 800 000 dollars mensuels en paiements et taxes pour le groupe armé pro-rwandais, alors que la province du Nord Kivu chiffre ses pertes à 7 millions de dollars par mois.
Précision de Claire Fage. En Syrie, c'est lui qui avait mené la rébellion pour mettre fin à 60 ans de régime Assad, Ahmad al-Shara, qui dirigeait de facto le pays depuis la chute de l'ex-dictature le 8 décembre dernier, a été désigné ce mercredi président de la transition. Les nouvelles autorités ont aussi annoncé la dissolution de l'ancien parlement et du parti Baas du clan Assad. Et puis les Haïtiens, eux, devront attendre aux alentours du 15 novembre pour connaître la suite de la période de transition. Leslie Voltaire, le président du Conseil de transition, a annoncé ce mercredi que des élections générales se tiendront autour de cette date. Ce serait le tout premier scrutin organisé depuis 2016 dans un pays miné par les violences des gangs qui contrôlent pratiquement toute la capitale, Port-au-Prince. Et puis notez bien ce rendez-vous dans notre matinale sur RFI. Leslie Voltaire sera l'invité d'Arnaud Pontus à 6h20 temps universel. L'Union européenne fait la part belle au milieu des affaires. L'UE a présenté ce mercredi sa boussole de compétitivité avec un objectif affiché, s'attaquer aux normes, aux réglementations jugées trop nombreuses et compliquées par le monde économique. Au menu donc avec au premier rang un détricotage annoncé du pacte vert européen, Simon Rosé.
Simplification ne veut pas dire dérégulation, répétait il y a encore quelques jours Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a poursuivi ce mercredi. L'Union européenne maintient le cap concernant les objectifs du pacte vert. Le pacte vert, environ 80 textes adoptés durant la précédente mandature, la feuille de route pour parvenir à la neutralité carbone en 2050. Si l'objectif est bien réaffirmé, la question des moyens qui y sont accordés se pose. La boussole de la compétitivité pointe en effet une autre direction pour que l'Europe puisse relancer son activité et redevienne innovante, l'exécutif a fait le choix de revoir des dizaines de textes. Parmi eux, le devoir de vigilance, obligeant les entreprises à veiller sur le respect de l'environnement et les droits humains dans toute leur chaîne de production. REACH, le règlement sur les substances chimiques. La CSRD, directive qui oblige les grands groupes à produire des rapports sur la durabilité de leurs activités. Tout cela doit être, sera simplifié en réponse aux demandes répétées des organisations patronales. Les associations et ONG écologiques dénonce quant à elle un démantèlement des protections essentielles pour les citoyens européens, l'environnement et le climat.
Simon Rosé. Et puis le plus grand patron français en colère contre le gouvernement, Bernard Arnault, numéro 1 du groupe LVMH, s'est exprimé mardi pour critiquer le projet de budget actuellement débattu au Parlement en France. Justine Fontaine, une mesure en particulier déplaît aux multimilliardaires, celle d'augmenter fortement les impôts sur les grandes entreprises.
Plus 40% d'impôts sur les sociétés qui font plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Cette surtaxe proposée par le gouvernement doit encore passer l'étape très délicate du vote au Parlement et elle ne serait appliquée que pour un an. Mais LVMH, la maison mère de Dior ou encore de Louis Vuitton, serait concernée directement. Alors son patron, Bernard Arnault, s'en est agacé publiquement lors de la présentation des résultats du groupe hier soir.
À peine croyable. Donc on va taxer le Made in France.
Avec une menace à peine voilée de la part du patron du luxe.
Pour pousser la délocalisation, c'est idéal.
En revanche, il encense les mesures prônées par le nouveau président américain.
Aux USA, on vous accueille à bras ouverts. Les impôts vont descendre à 15%. Les ateliers qu'on peut construire aux USA sont subventionnés dans toute une série d'États. Et le président américain encourage ça.
Il faut dire que Bernard Arnault et Donald Trump se connaissent bien. Le patron d'LVMH était le seul Français présent dans le premier cercle des invités à l'investiture du président ce mois-ci. Et grâce à la proximité entre les deux hommes, le champagne, activité importante du groupe français du luxe, avait échappé aux sanctions américaines sur le vin lors du premier mandat de Donald Trump.
Explication de Justine Fontaine. C'est la fin de ce journal sur Radio France Internationale. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques secondes, il sera 2h10 dans nos studios à Paris, 1h10 en temps universel.